Alors, c'est un petit peu difficile de parler la dernière de la semaine. On a beau dire que c'est un privilège, bon, ça reste difficile parce que vous allez sûrement entendre des choses que vous avez déjà entendues. Parce qu'on ne prépare pas le jeudi après-midi une conférence d'une demi-heure, n'est-ce pas? J'espère ne pas partager trop de redites et j'espère vous apporter aussi quelques nouvelles perspectives. Alors, j'ai intitulé le titre de ce partage « Dieu, la Terre et moi, dialogue biblique, écologique et théologique autour de Genèse 1 ». Et je vous propose maintenant d'entendre la lecture de Genèse 1 et puis les quatre premiers versets de Genèse 2. On le connaît, mais tout de même, je crois que c'est bien de le réentendre.
Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit... Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière de la ténèbre, Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre, il l'appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux inférieures au firmament, d'avec les eaux supérieures. Il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent paraisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre le continent. Il appela mer l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rendent féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur semence. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, des arbres qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit, et les étoiles. Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et séparer la lumière de la ténèbre. Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes, et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants et remuants selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux, et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon, Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers, et que l'oiseau prolifère sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes et bêtes sauvages selon leur espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. » Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne, pour nourriture, toute herbe mûrissante. » Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au septième jour toute œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le septième jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création.
Voilà, alors je crois que c'était important de nous replonger dans ce chapitre, puisque je vais faire en fait une étude biblique de ce chapitre 1 du livre de la Genèse. Alors je commence par une prière juive, qui est tiré d'un livre qui s'appelle le Sidour, qui m'avait été offert. C'est la prière du lever, une des prières du lever. Je te remercie, Éternel, mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, pour ce jour qui s'ouvre devant moi. Pendant cette journée, aide-moi à agir avec discernement. Je te remercie pour la beauté du monde que tu as créé, pour la présence des êtres qui me sont chers, et pour tout ce que je pourrais apprendre, accomplir et savourer tout au long de cette journée. Fais que je puisse, par mon action, parfaire ta création. Alors mon propos va être appuyé par une étude faite par un théologien réformé qui se nomme André Gounel, qui a pas mal écrit et travaillé ce sujet de la création au niveau biblique. Et donc, je vais notamment partager avec vous la retranscription d'un de ses articles sur la création. Alors, pour commencer, il est important de redire que ce récit, la création de Genèse 1, est un mythe, une histoire. Ça fait rire Michel. Oui, oui, c'est bien un mythe, une histoire. C'est une façon imagée de présenter des convictions. Ce récit transmet un message et une compréhension de la vie, comme le fera Jésus plus tard avec les paraboles dans le Nouveau Testament. Ce récit n'est donc ni un récit historique. Rappelons que d'après les spécialistes, les mises par écrit des textes de Genèse sont relativement tardives dans l'ensemble des écrits du Pentateuque. Ce récit n'est pas non plus un compte-rendu scientifique. Quand on lit par exemple le verset 4 du psaume 90, « Un jour est comme mille ans à tes yeux. » La création n'a pas été créée en 7 jours, au risque peut-être d'en décevoir certains. Ce n'est que mon avis, hein. Alors toutefois, ce postulat de départ ne sous-estime en aucun cas la valeur du récit. Ce récit qui dévoile toute une richesse inépuisable à celui qui prend la peine de le laisser parler. Notre récit de Genèse 1 est inspiré lui-même par des récits plus anciens de création. Et ce récit offre des vérités profondes et spirituelles depuis la nuit des temps et encore pour l'éternité. Il fait d'ailleurs partie des textes bibliques qui ont été le plus tournés et retournés, selon cette expression juive, c'est-à-dire un des textes bibliques qui a été le plus commenté, le plus lu, le plus travaillé. Alors, une petite précision linguistique pour poursuivre. Yahvé, que vous savez peut-être, c'est le terme hébraïque exact, sera remplacé ici par Dieu. Hein, voilà, je nommerai Dieu tout le long de mon commentaire. Alors, Dieu, la Terre et moi, le titre de cette conférence à la croisée entre dialogue biblique, écologique et théologique. Je vous invite donc à avancer ensemble dans ce récit mythique, en découvrant les conceptions de la vie au regard de Dieu qui nous sont ici proposées. Et puis je me permettrai, dans chaque grande partie que je vais vous proposer, de terminer toujours par des échos avec notre vie d'aujourd'hui. En effet, pour moi, la Bible est parole de vie, et elle le reste, et c'est bien son premier objectif. Et donc, elle l'est encore pour nous aujourd'hui. Pour moi, la Bible n'est pas un vestige archéologique, mais bien une parole qui résonne encore dans nos quotidiens. Alors, deux grands thèmes se dégagent du récit de la création, qui vont être les deux grandes parties de cet exposé. D'un côté, l'action de Dieu, et de l'autre côté, sa création, c'est-à-dire le monde. Alors, commençons avec la première partie, l'action de Dieu, le Dieu créateur. Si nous commençons par le tout début de notre récit, le plus souvent, nous lisons « au commencement ». On connaît bien ces premiers mots de la Bible. En hébreu, « Bereshit ». Et contrairement à ce que ce terme laisse sous-entendre, le premier chapitre de la Genèse ne va pas nous parler d'un début originel. Certains spécialistes de la langue hébraïque disent que « Bereshit » ne signifie pas « au commencement », mais plutôt « dans les temps primitifs ». D'ailleurs, la première lettre de ce mot hébreu, qui est un « bet », est interprétée par des rabbins comme le signe qu'il y a bien autre chose avant, puisque c'est un « b » et non pas un « a » qui a été choisi. Selon une histoire juive, le « bet », donc le « b », se serait plaint auprès de Dieu de ne pas être à l'origine de l'univers et d'avoir été devancé par le « aleph », qui est le « a ». Dieu aurait répondu que l'homme n'aura jamais accès au aleph de l'univers. Comprenons ici, impossible à l'homme, au raisonnement limité, de connaître l'origine du monde qui est, était et sera pour toujours hors de sa pensée et de son entendement. Et voyez-vous, cela rejoint aussi notre foi de croyant. Impossible pour nous, nous dit déjà cette première lettre de notre récit, impossible pour nous de connaître entièrement Dieu, de tout savoir sur lui, de le comprendre. Alors donc, on peut se demander, si ce n'est pas le tout début, qui avait-il avant le commencement? Qui avait-il avant la création? Notre récit décrit en postulat de départ et sans explication, on nous parle du tohu wabohu, qui est devenu tohu bohu en français, qui se traduit par informe, vide. On nous parle d'une ténèbre, d'un océan, un abîme, mais plutôt la traduction exacte serait bouillie, une bouillie. Alors, regardons maintenant le verbe utilisé au premier verset qui est le verbe créer. Si on lit la suite, alors le chapitre était long, mais vous pourrez le relire chez vous, on se rend compte que pour chaque création, Dieu ne va pas en fait créer de toutes parts, mais plutôt il va séparer. Je ne sais pas si ça vous a frappé à la lecture. Dieu ne va pas créer vraiment, il va séparer, il va distinguer lumière et ténèbres, ciel et terre, terre et mer, jour et nuit. Le verbe en hébreu que nous traduisons par créer viendrait d'une racine qui signifie tailler, découper. La création serait donc un processus de séparation. Alors, il est vrai que dans notre langue française, séparer a une connotation négative. Mais ce n'est pas du tout le cas ici. La création, séparation de Dieu, n'est pas une déchirure, un échec, mais plutôt une séparation pour l'harmonie et le bonheur dans la richesse de la différence. Un petit peu comme on pourrait séparer deux enfants qui discutent trop en classe pour que chacun puisse finalement correctement suivre la leçon du professeur et s'épanouir avec ses propres richesses. Et cette notion positive de séparation rejoint celle des commandements. Vous vous rappelez peut-être, pour celles et ceux qui étaient présents, nous en avions parlé il y a 2 ans ici même autour du thème de la loi. Et nous avions conclu que loin de nous brimer, Dieu nous avait donné sa loi afin de nous permettre de vivre libres. Alors finalement, la Genèse raconte la transformation du chaos vide, de la bouillie informe et en désordre, en création ordonnée et structurée. Dieu, le Créateur, est donc ici celui qui démêle, qui trie, qui organise l'espace et le temps. Point très intéressant aussi, l'acte créateur permet, en plus de mettre de l'ordre, on peut dire aussi il permet en mettant de l'ordre, la naissance de nouvelles existences, végétaux, astres, animaux, humains, qui étaient absents de la bouillie informe originelle. Quel est ici l'écho avec nos propres vies? Écoutez bien, il est très simple. Si je vous dis « Dieu démêle et ordonne nos vies », est-ce que cela vous parle? Si j'ajoute « En laissant Dieu ordonner nos vies, de nouvelles belles et bonnes choses émergent en nous », est-ce que cela fait sens? Autre point dans cette première grande partie sur l'acte créateur. Nous venons de voir donc le commencement, Dieu qui crée en séparant. Et puis ensuite, que se passe-t-il dans notre récit? Est-ce que vous vous rappelez? Dieu parle. Pour organiser le monde, pour créer du neuf, Dieu utilise la parole. Dieu dit. C'est répété tout au long du récit. Dieu crée en disant. Parler implique d'avoir un interlocuteur. Alors à qui Dieu parle-t-il? N'est-ce pas? Puisque nous sommes dans la bouillie. Eh bien, il va parler au tohu ou à bohu. Et Dieu va attendre une réponse, il va attendre un consentement, un retour de la parole donnée. Ainsi, le récepteur de la parole de Dieu, le chaos, entend. Et manifestement, puisqu'il y a un résultat effectif de la parole donnée, le chaos y réagit positivement. Alors, si Dieu ne parle pas d'abord, rien n'est possible. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et non, il n'est pas écrit dans notre récit, Dieu fit la lumière. On est bien d'accord? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. N'est-ce pas? C'est différent. La parole précède l'acte créateur. Ou plus juste encore, je dirais la parole engendre l'acte créateur. Un autre point très important aussi, entre ici en ligne de compte la liberté pour l'interlocuteur de répondre ou non à la parole donnée. Dieu ne fait pas la lumière, si j'ose dire, contre son propre désir, mais il ouvre par sa parole une vocation créatrice. Autrement dit, le chaos, je vous l'ai dit, a reçu favorablement la possibilité que Dieu lui offrait de répondre à sa vocation. On peut aller jusqu'à dire que Dieu, finalement, ne crée pas directement. En tous les cas, dictatorialement ou de façon magique. Mais Dieu suscite la création. Dieu permet la création en lui parlant, en l'interpellant. Ici, ça me fait penser un petit peu à la maïotique de Socrate, n'est-ce pas? L'art de faire accoucher les esprits. C'est ça, hein, cette idée dans le Dieu créateur. Dieu suscite la création en face de lui. Quel est l'écho ici pour nos vies? C'est le même. Nous sommes libres face à Dieu. Nous sommes toujours libres face à l'interpellation qu'il nous adresse. C'est le type de relation qu'il choisit dès le départ avec sa création, comme avec ses créatures dont nous sommes. Dieu le premier nous parle. Oui, il nous appelle, c'est vrai. Oui, il nous interpelle. Mais c'est à nous, et à nous seuls de répondre, positivement ou non. Et nous avons, en recevant la parole créatrice donnée, la possibilité de devenir à notre tour des créateurs. Dieu, en nous parlant, suscite aussi notre vocation. Dans cette relation que Dieu choisit, j'aimerais souligner également, il ne s'agit pas de « on fait table rase, on recommence ». On détruit tout, on recommence. Non. Dieu prend ce qui existe. Dieu prend la bouillie. Il le prend, ce chaos, et il le transforme. C'est un petit peu comme avec nous, n'est-ce pas? Nous avons de la valeur, chacun comme nous sommes, mais nous avons aussi en nous des chaos et des vides intérieurs. Comme Dieu permet à la bouillie informe, grâce à sa parole, de devenir une bonne création, si nous-mêmes l'acceptons comme force créatrice, Dieu nous débouillitise et fait de nous des belles créatures. Il y a beaucoup d'espérance là-dedans. Il ne faut jamais désespérer. jamais ni de nous-mêmes, ni des autres. Tout est possible pour Dieu. Mais bien sûr, pour cela, faut-il encore accueillir sa parole, n'est-ce pas ? Répondre à l'interpellation de Dieu, puisque nous sommes libres, et la laisser façonner nos cœurs et nos esprits. En parcourant la Bible, et vous êtes, je suis sûre, des lecteurs de la Bible, le premier comme le second testament, on réalise que ce type de relation de Dieu à sa créature se retrouve très souvent. Abraham, Noé, Ésaïe, Jonas, pour n'en citer que quelques-uns, la naissance de Jésus, les guérisons, où on est témoin d'un Dieu créateur qui, par sa parole, permet à son interlocuteur de devenir créateur à son tour. Ainsi, on peut affirmer avec ce récit de la création, et on peut comprendre comment Dieu agit et agira de tout temps et en tout lieu avec ses créatures, pour le peuple juif, pour les chrétiens et pour le monde. Aujourd'hui, je le crois, par sa parole, Dieu continue à nous interpeller pour que nous soyons sans cesse renouvelés. Dans nos vies, comme dans celles et ceux qui nous ont précédés et de ceux qui nous suivront, Dieu parle. Et en cela, appelle sans cesse et toujours, envers et contre tout, à la vie. Mais de fait, comme nous l'avons déjà dit, cette interpellation n'a de valeur que s'il y a réponse libre. Et notre récit de la Genèse, en nous rendant témoin de l'engagement positif du chaos pour sa vocation créatrice, nous invite nous aussi à répondre positivement à notre tour à l'appel que Dieu nous donne, pour que nos vies soient démêlées et mises en ordre et tendues vers le bonheur et la vie. Toujours aujourd'hui, Dieu nous appelle et nous demande de nous engager à ses côtés pour la création, au cœur de la création, car c'est à nous aussi de transformer la bouillie informe en création bonne, le désordre en séparation salutaire, la violence en paix, la haine en amour. Alors j'en arrive à ma deuxième partie, le monde créé. Donc nous disions qu'il y avait deux grands thèmes, la création d'un côté, alors l'acte créateur, excusez-moi, d'un côté, avec ce Dieu qui parle, qui crée. Et puis, de l'autre côté, il y a le monde créé. En somme, c'est le résultat de l'acte créateur. Une première conviction se dégage, la création n'est pas sacrée. La création n'est pas sacrée, le monde n'est pas divin. Notre récit, ce récit, nous interdit clairement d'identifier Dieu et sa création. Dieu n'est pas ce qu'il crée. Dieu précède les astres et le règne vivant. Nous l'avons dit, Dieu est là avant que ces dernières ne soient, même si cette idée est difficilement recevable par notre entendement humain. Qui a créé alors Dieu, n'est-ce pas ? Alors la terre, les arbres, le soleil ou même les animaux ne sont pas des dieux et ce récit nous préserve de leur rendre un culte. Nous savons que cela ne va pas de soi dans d'autres religions ou philosophies anciennes ou modernes où la nature est divinisée. Ces adorations sont une réponse possible à la grande question des origines et de la vie qui s'est posée à toutes les époques et qui se pose encore. Chaque civilisation y a apporté sa réponse. Il y a des millénaires dans le Moyen-Orient ancien. Chaque civilisation a donné un petit peu son récit de la création. Beaucoup pensent que la création est à l'origine l'œuvre de Dieu capricieux. De leur bon vouloir ou de leur colère dépendait la pluie ou le soleil, les tempêtes ou les catastrophes, et ceci pour le bon ou le mauvais développement de la vie sur Terre. De la même façon, dans nos Bibles, les Cananéens du Proche-Orient ancien vénèrent Baal. Alors les Baals, c'est ce nom qui est à l'origine d'une divinité, puis par glissement qui a signifié tous les dieux étrangers dans la Bible. Ce terme est très utilisé dans les littératures bibliques, historiques et prophétiques, et il montre l'importance de ces divinités pour qui existe une relation complexe et vitale entre le ciel, la terre et la mer, et en particulier pour le don de la pluie, indispensable à la vie. Les Cananéens considéraient les sources, les montagnes et les arbres comme des puissances divines. Puis ensuite, il y a cette croyance au Dieu unique d'Israël. Ce lien fort va quand même perdurer. Le Dieu d'Israël, dans cette transition, sera considéré comme le nouveau Baal. On va dire que c'est le Dieu d'Israël désormais qui va être pourvoyeur de la pluie, donc de la vie. Eh bien, Genèse 1 va être un moyen écrit de mettre au point cette nouvelle compréhension existentielle du Dieu unique. Sources, arbres et montagnes ne sont que les créatures du troisième jour. De même, soleil, lune et étoile sont décrits dans notre texte avec beaucoup d'humour. En plus de n'être créées que le quatrième jour, elles sont décrites, vous l'avez entendu, comme des luminaires célestes, comme des lampes finalement. Et c'est intéressant, le terme hébreu qui est utilisé là est le même que celui qui était utilisé pour les luminaires du temple de Jérusalem. Ces lampes que Dieu va accrocher au plafond, et non plus des astres divins. Eh bien, cette mise par écrit est un petit peu un pied de nez à ce qui était de mise à l'époque, le culte des astres. Alors, l'univers entier n'est plus présenté comme sacré en lui-même, mais plutôt comme porteur d'une sacralité créée par Dieu. Notre chapitre 1 proclame « Ces faux dieux que vous vénérez et redoutez ne sont que des créatures inférieures à vous. Elles ont été créées par le seul et unique Dieu. » Un théologien baptiste américain provoque un peu en déclarant que Genèse 1 est le premier manifeste athée que nous connaissons. Puisqu'en détaillant les six jours de la création, ce chapitre met à mort les divinités vénérées à l'époque de sa rédaction. En tous les cas, avec ce récit, le peuple juif expose une théorie révolutionnaire de la création. La vie humaine est le résultat de la volonté de Dieu. De plus, les êtres humains, loin d'être des jouets dans les mains de Dieu, sont créés à son image et sont appelés à exercer leurs responsabilités pour prendre leur part dans la création et la préservation de la vie. Il y a tout un tas de textes dans la Bible qui illustrent cela et je vais juste demander à Nicole de lire quelques versets du psaume 8.
Psaume 8, verset 2. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur. Puis verset 4 à 7. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce donc l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies? Tu en as presque fait un dieu. Tu le couronnes de gloire et d'éclat. Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds.
Alors, quel est l'écho ici pour nous aujourd'hui? Alors, chez nous, il n'y a pas d'animisme amérindien ou africain, mais dans notre société, il y a aussi d'autres visages de la vénération. Argent, apparence, sport, politique. On en a parlé cette semaine, certains mouvements écologistes qui font aussi de la terre une divinité. Alors ce texte nous redit, comme il l'a fait pour les Cananéens, que pour chacun de nous, nous avons encore besoin de l'entendre, seul Dieu est Dieu et seul lui mérite notre adoration. Si nous vénérons une de ces créatures, nous devenons ce qu'on appelle des idolâtres, et en de tout temps, l'idolâtrie a été combattue dans la Bible et dans l'histoire. Une deuxième conviction sur cette grande partie, sur la création, donc la première, le monde n'est pas sacré, la deuxième conviction, le monde est bon. Comme un refrain, quatre fois, Dieu s'arrête et regarde ce qu'il crée. C'est bon, c'est bien. Et au sixième jour, il va même dire, c'est très bien, c'est vraiment bon. Le monde est accueillant pour toutes les créatures, chacune à sa place. Il y a ici une légitimation pour chaque créature à habiter le monde. Comme pour la première conviction, qui avait pour but de contrer, souvenez-vous, les adorations des faux dieux, cette seconde conviction que le monde est bon vient aussi mettre à mal une autre pensée de l'époque. Certains disaient que le monde était un raté, on le dit encore, ou qu'il avait été créé par des puissances maléfiques, par pur désir de nuire, où seules des âmes mauvaises pouvaient s'y plaire. Quant aux purs esprits, ils n'avaient qu'à le fuir en s'élevant dans la contemplation mystique et dans le retrait du monde. Avec cette vision, la foi en Dieu impliquerait une attitude négative face à la vie terrestre qui est malade et corrompu. Genèse 1 rejette cette prise de position, sans tomber dans un optimisme aveugle. Car on le sait, hein, tout de suite après, dans la suite du livre de la Genèse, il y a la soif de domination des êtres humains, Adam et Ève, Caïn et Abel, etc. Hein, tout ça se fera l'écho plus tard. Mais malgré tout, voilà ce que notre récit affirme, même compliquée et douloureuse, la vie est un don, un beau don qui nous a été fait, et non une fatalité qui nous écraserait. De même, le monde dans lequel nous vivons, œuvre de Dieu, malgré ce qu'il est défigure au quotidien, est d'abord bon. Alors quel est notre rôle de croyant ? Notre devoir est de nous en occuper, de nous en préoccuper, afin de témoigner de cette bonté originelle pour tous. Notre monde n'est pas Dieu, nous l'avons dit, mais il n'est pas non plus maléfique. Il ne doit pas non plus nous être indifférent et ni même utilitaire, comme un objet à notre merci ou un réservoir sans limite. Le monde mérite notre attention, notre respect, notre préoccupation, sans bien sûr tomber dans l'adoration. En ce sens, le commandement « Tu aimeras ton prochain » et on en a parlé presque tous les jours cette semaine. Je vais donner ici un autre éclairage. Il concerne pour moi tout ce qui m'est proche. Alors les prochains, ce sont ceux que l'on va croiser, les êtres humains, mais aussi ça va être l'air que je vais respirer, l'eau qui me donnera la vie, les plaines et les montagnes qui vont illuminer ma géographie, les végétaux qui vont pousser et qui me nourrissent, les animaux qui peuplent le monde. Notre récit chante notre émerveillement devant les origines du monde. Il affirme notre conviction qu'un seul Dieu a créé et maintient le cosmos, et que les êtres humains sont les partenaires indispensables de Dieu dans la préservation et la continuation du don précieux de la vie. Alors voilà, d'après ce merveilleux récit de la Genèse, la juste attitude que nous sommes appelés à adopter vis-à-vis du monde et la bonne place que nous avons à trouver en sa présence en tant qu'être humain. Alors, il y a un texte que je vous distribuerai après, puisque là, l'heure tourne, qui est le Cantique des créatures de François d'Assise. J'aurais voulu le lire avec vous, mais vous le connaissez, je pense, et voilà, on va vous le donner à la fin, tant pis, on ne le lira pas, qui est un hymne magnifique sur la création et qui redit un petit peu tout ce que l'on a dit. Alors, un hymne à la création sans en faire un dieu. Ça, c'est encore quelque chose d'important. Alors, pour terminer sur cette grande deuxième partie et avant une très brève conclusion, ce chapitre 1 de la Genèse, il me semble, pose cette question essentielle, existentielle et intemporelle pour l'humanité. Quel est le principe de ma vie ? Vous vous souvenez ce mot hébreu qui commence la Genèse, Bereshit, que nous traduisons par « au commencement ». Quand Jérôme, au IVe siècle, a traduit la Bible en latin, il l'a traduit par « in principio », qui se traduit en grec par « en arché », dans le prologue de Jean notamment. Et ça veut dire le principe, le principal, le prince. Cette grande question, quel est le principal de nos vies, c'est-à-dire, hier, le pasteur Baptiste a dit « quel est le centre de ma vie ?» C'est cette même question. A été reprise par tous les sages, tous les théologiens et les philosophes à travers les siècles, et deux grands types de réponses se sont distingués. La première, nous sommes le produit de causes diverses. Le déterminisme régit notre existence et façonne notre personnalité. Ce qui prime, c'est le cours des choses, extérieur à nous-mêmes. Le monde est le prince de nos vies. Deuxième position, nous devons décider, faire des choix assumés pour mener notre vie, qui se dessinera selon notre propre volonté intérieure et selon notre courage. Nous forgeons nous-mêmes notre personnalité. Nous sommes le prince de nos vies. La foi biblique, dans ce texte, apporte une troisième alternative. Le monde et l'histoire ne décident pas complètement de notre vie. Et en même temps, nous ne pouvons jamais la maîtriser par nous-mêmes entièrement. Mais notre vie peut en revanche se déterminer dans la parole que Dieu nous adresse et à laquelle nous sommes appelés à répondre en toute liberté. Nous ne sommes pas livrés aux aléas du monde et de l'histoire, pas plus que nous ne devrions être dépendants de nos désirs et de nos réussites. En revanche, nous sommes interpellés par une parole qui nous rend responsables de vivre sous le bon regard de Dieu. Ce qui revient à affirmer pour la foi biblique, le prince de nos vies, c'est Dieu, et lui seul. Et nous retrouvons ici notre première affirmation sur le Dieu créé. Voilà, alors j'ai déjà dépassé le temps, 5 minutes. Est-ce que je peux juste donner... Voilà. Alors, une petite conclusion, mais je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Dieu crée en ordonnant, par sa parole, il nous invite à devenir créateurs. Le monde est bon et nous lui devons respect et préoccupation sans adoration. Nous sommes les partenaires de Dieu dans le processus continu de création du monde comme de nous-mêmes. Et pour finir, 3 pépites qui qui pour moi nous sont encore données. Vous voyez, c'est infini. Genèse 1, c'est infini. Dans ce texte. Première chose, la querelle créationniste-évolutionniste est non pertinente. Après tout ce qu'on vient de dire, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'y revenir dessus. Ce n'est pas un récit scientifique, ce n'est pas un récit historique. L'acte créateur est existentiel. Bon, s'il y a des questions après, on pourrait y revenir, mais je fais très bref. Deuxième pépite, passé et avenir. Ce texte n'appelle pas à une nostalgie d'un passé idéal, à un paradis perdu, pas du tout. Mais il appelle à créer toujours de nouveau. Et ça, c'est le père Barcellini qui aime bien dire ça, hein, n'est-ce pas? Voilà, vous l'avez entendu, Dieu n'est ni celui des origines, ni celui des finitudes, mais Dieu est celui de la relation, il est le Dieu de la parole. Alors, je suis lié, je suis relié à Dieu et à la terre par la force créatrice qui émane de Dieu et qui œuvre sans cesse pour faire de nous, comme du monde auquel je dois respect et soin, des créatures nouvelles. Je termine. Selon des sages juifs, après avoir formé Adam, Dieu lui a fait faire le tour du magnifique jardin et lui a dit « Vois la beauté de tout ce que j'ai créé. Tout a été fait pour toi. Souviens-toi bien de cela. Et ne corromps ni ne détruis mon monde. En effet, si tu agis ainsi, il n'y aura personne pour le sauver. » Oui, le choix nous appartient. C'est ce même défi que l'on retrouve dans ce verset qui a aussi été cité cette semaine, mais qui est souvent tronqué à tort de son début. Dans Deutéronome 30, verset 19. J'ai placé devant toi la vie et la mort, n'est-ce pas? On oublie le début. Et le début, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie, maintiens-la vivante et bats-toi pour elle. Merci. Pendant les questions. Merci. Voilà, j'ai mis également la petite prière du Sidour et je voulais la relire mais on n'a pas eu le temps. Si on la relit maintenant, vous verrez qu'elle va résonner différemment de quand on l'a lu au tout début de notre partage.
Bon, en attendant que vous ayez les feuilles, ça vous laisse le temps un petit peu de réfléchir. Alors donc, merci à Charlotte. Cette semaine, c'est un peu comme un feu d'artifice et puis aujourd'hui, on voudrait un peu le bouclet final. Même si la semaine n'est pas tout à fait finie, pour les études bibliques, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une belle conclusion, une forme de conclusion. Est-ce qu'il y a des questions?
Hier, par hasard, j'étais à une conférence scientifique, notamment à propos de l'astrophysique. Quoi. Donc, on a parlé... notamment du Big Bang, etc. Et on retrouve cette méthode, ce magma qui évolue, donc c'est, voilà, ça m'amuse parce que je retombe sur les pas. Quoi.
Comme quoi la Bible et la science ne sont pas du tout en contradiction. Voilà, si on prend la peine de les regarder de façon lucide, elles s'interpellent mutuellement, il n'y a pas de conflit.
Vous savez, on dit un petit peu de science éloigne de Dieu et beaucoup de science s'y ramène. Ouais. Je suis bien placé, n'est-ce pas, Daniel? Les gens comme nous sont bien placés. D'autres questions?
Ce ne sont pas des questions, mais je voudrais dire pourquoi j'ai bien apprécié ton intervention. Trois choses notamment. D'abord, que tu te sois inspiré d'André Venel, qui est un théologien protestant, qui nous a offert et qui continue de nous offrir, notamment dans le cadre d'Évangile et Liberté, des ouvrages d'une très grande densité et toujours d'une parfaite limpidité. Donc merci. La deuxième chose, c'est j'ai beaucoup aimé la manière... Pas surpris parce qu'on t'entend tous les dimanches, mais la manière dont tu parles de Dieu, une manière qui nous invite toujours à rendre grâce. Un Dieu qui respecte notre liberté, qui n'agit jamais envers nous d'une manière arbitraire, qui nous laisse toujours le choix, mais qui nous offre la possibilité d'exercer ce, ce choix. Et tu as lu des mots très, très beaux qui nous invitent à nous engager à ses côtés de façon responsable, de façon conséquente, ajustée, qui nous invitent à nous préoccuper du monde et de toute la création. Et puis, je t'ai bien retrouvé comme chaque dimanche dans tes prédications où tu prends toujours soin d'articuler les textes bibliques et la vie quotidienne. Je donne trois exemples. La séparation des enfants en classe, ça c'est très parent. Le chaos intérieur qui habite chacun, et moi d'abord. Et puis, cette invitation à toujours nous poser la question, qui est le prince de ma vie? Qui régit ma vie? Merci beaucoup.
Charlotte, je voulais aussi te remercier beaucoup parce que je t'appelle pas encore Rabbi, mais ça peut être pas mal. Là aujourd'hui, non, c'est vraiment, je dis ça sérieusement. C'est pas. Je te remercie de la façon dont tu as mené cette ouverture de cette paracha, on va dire. C'était vraiment très intéressant et tu as dit beaucoup de choses. Pour la séparation, je me suis reliée au mot pharisien, parce que j'en ai parlé hier, et puis c'est très interpellant pour le monde chrétien. Le pharisien est très mal vu, c'est Pérouchim. Les pharisiens, c'est Pérouchim en hébreu. Et c'est séparé, justement. Et pourquoi, effectivement, c'est les séparer? Mais Jésus était un pharisien, je veux le redire. Et qu'aujourd'hui, nos pharisiens sont nos rabbins. Alors on n'est pas trop séparés d'eux, puisqu'ils font comme toi, ils nous apprennent énormément de choses. Et tu as utilisé aussi ces connaissances, et merci. Donc effectivement, je voulais redire, et me poser la question, je te la pose peut-être, mais il faudra la poser, je ne sais pas à qui d'autre. Pourquoi, effectivement, jusqu'à là, jusqu'aux hommes et jusqu'au monde juif, il faut séparer. Alors, le sacré du profane, certes, mais les pharisiens. Ça a tellement interpellé le monde, ça a tellement fait souffrir aussi entre le monde chrétien et le monde juif, hein, dans la modernité. Et ça reste encore pour beaucoup. Pas pour moi, mais pour beaucoup, beaucoup, aussi bien côté juif que côté chrétien. Donc, et là, tu as parlé de séparation, ce qui est vrai, ce qui est juste, et de distinction aussi, c'est de distinguer les choses, de discerner les choses, parce qu'il y a même une autre prière très belle dans le livre, où on distingue aussi les choses. Puis l'autre, c'est parfaire la création. Et ça, nous avons aussi dans la tradition ce qu'on appelle le tikkun olam. C'est-à-dire, ce que nous avons à faire, c'est plus que parfaire, c'est même la réparer au jour d'aujourd'hui. La réparation du monde, c'est notre action de tous les jours. Pour pouvoir la parfaire, il faut déjà réparer tout ce qu'on a fait de mal, et de pas bien en tout cas, et de pas bon. Et là aussi, Dieu a dit que ce qu'il a fait, c'était bon, et même il l'a doublé à la fin, et c'est merveilleux. Bon, on va essayer d'en faire autant.
Alors, peut-être juste à essayer de donner une piste par rapport aux pharisiens. Par rapport à cette séparation, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, elle vient de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas une séparation humaine. La séparation qui a lieu pour la création, c'est Dieu qui en est l'initiateur. C'est bien différent de nos séparations humaines. Moi, j'ai l'habitude de dire que dans mon ministère, tout ce qu'on me présente comme... exclusion, séparée, comme rejet, c'est-à-dire on me dit bah non, ça c'est pas bon, pour moi c'est non, voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est de la part de l'être humain une raison de rejeter, parce que là on peut entendre un peu ce que tu disais, hein, dans cette notion de pharisianisme et de séparation, je suis méfiante, parce que pour moi au contraire l'évangile il accueille, il ne rejette pas, voilà. Alors, je crois qu'il faut... C'est peut-être là, hein, c'est que la séparation là, de Genèse 1, c'est Dieu lui-même qui le veut pour le pour le bien du monde, pour que le monde soit beau. Et ça, par contre, je suis profondément convaincue qu'en nous, c'est ce qu'il fait. Hein, c'est-à-dire ce tri, il va démêler, il va réorganiser notre bouillie. Voilà. Après, la séparation que l'on fait, nous, en tant qu'être humain, c'est autre chose. Les séparations que l'on s'érige, les murs que l'on construit entre êtres humains. Voilà. Et puis, juste pour les pharisiens, on en avait déjà un petit peu parlé, pour moi, les critiques de Jésus vis-à-vis des pharisiens, sachant que lui, il était, c'est pas les pharisiens en tant que tels, c'est leur façon d'eux. Voilà. Et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et on est tous interpellés quand il y a des critiques de Jésus aux pharisiens. C'est-à-dire, c'est nous. C'est notre façon d'eux. Voilà. Donc, moi, c'est toujours comme ça que je le lis. C'est pas ce groupe-là qui est montré du doigt. C'est chacun qui est montré du doigt dans sa façon de faire. Qui rejoint, voilà, celle qui avait été montrée du doigt à l'époque. C'est une façon d'être et d'agir, mais pas un groupe d'hommes et de femmes.
Marie.
Merci beaucoup, Charlotte, pour cette espérance que tu nous donnes. Et j'allais dire aussi le sens pour notre vie aujourd'hui. Parce qu'on aurait facilement à paniquer devant les catastrophes qui nous menacent et le chaos qui aurait raison de nous. Et quand on pose la question « Où va le monde ?», ça fait peur. Et aujourd'hui, j'ai ressenti très fort le sens que cela a. C'est-à-dire la création n'est pas terminée et nous sommes associés et j'allais dire... Nous sommes en de bonnes mains. Et alors effectivement, malgré toute la violence du processus, mais qui est aussi un processus de naissance, le sens premier, c'est que nous allons vers la vie. Merci.
Merci Dieu. Dieu est chargé de mettre de l'ordre dans notre bouillie, eh ben, il a du travail. Et pas qu'avec Norbert. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on est co-créateur, donc Dieu sans nous, ça ne marche pas, et nous sans Dieu, c'est pas bon. Et que voilà,
C'est ce que j'ai dit un petit peu dans la première partie, c'est-à-dire que Dieu, en nous interpellant, nous appelle à notre vocation créatrice, c'est-à-dire nous demande de devenir créateur à notre tour.
Et qu'on peut refuser.
Ah, tout à fait, on peut refuser. Voilà, j'ai parlé aussi de la libre réponse, la responsabilité de chacun de répondre à cette vocation. Oui, je reçois cette parole de vie et je veux à mon tour devenir créateur, ou bien non, je refuse d'entrer dans cette relation. C'est toujours une histoire de relation. Donc effectivement, je crois que c'est un Dieu créateur qui nous rend créateur à notre tour, par lui, en lui. Voilà. Donc voilà.
En plus, avec la possibilité d'être destructeur.
Ah ben voilà, ça c'est choisi la vie. Hein. Je me remets devant toi le ciel et la terre. Je place devant toi la bénédiction, la malédiction. Voilà, choisis la vie afin que tu vives.
Il n'y a pas la salvation.
Ah non, c'est jamais une ligne droite. Effectivement, il y a des moments dans notre vie où on peut être plutôt dans cette vocation créatrice et d'autres, au contraire, d'être dans quelque chose de destructeur vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres. Et, mais on est toujours appelé de nouveau.
On n'est jamais neutre.
Voilà. Oui. Alors, on doit se positionner, en tout cas.
Ouais.
Et comme le rappelait Charlotte tout à l'heure, on oublie souvent de citer le début du passage de Deutéronome 30:20, c'est-à-dire que c'est l'univers, la création... qui est témoin contre nous. Et c'est à ça qu'on assiste un peu en ce moment. C'est la création, Dieu dit qu'il va prendre le ciel et la terre à témoin contre nous. Et c'est après qu'il dit, voilà, devant témoin, il dit qu'il a mis devant nous le bien et le mal, la vie et la malédiction, et il nous dit, choisis la vie, c'est... Et Charlotte hier au soir insistait sur espérance. Effectivement, c'est ce qui doit traverser. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle.
Je me permets juste de compléter par rapport à l'espérance et ce que disait Marie. Je ne l'ai pas lu parce que c'était sur la fin et il fallait aller un peu plus vite. Mais finalement, la phrase de conclusion que j'avais choisie, c'était « Le monde fécondé en Dieu », donc le monde dont nous font partie les créatures, « Le monde fécondé en Dieu est appelé à l'espérance agissante ». C'est-à-dire que, effectivement, cette espérance, elle est là, mais on ne nous appelle pas non plus à rester les bras croisés. Il faut vraiment être créateur, voilà, l'espérance agissante. Je crois que c'est une belle formule.
Être les mains pour Dieu.
Faire, toujours faire d'abord.
D'autres questions, Lucien?
Un grand merci naturellement. Ça parle un peu haut pour moi, je suis un expérimental. Alors si je peux apporter une contribution pour rapprocher par rapport de la recherche et expliquer le devenir, c'est un sujet passionnant que tu viens de nous... Un passionnant, ça peut rassembler. Mais c'est un sujet qui peut être passionné et qui peut diviser. Si je peux apporter une contribution scientifique, rapporter ce que les chercheurs ont trouvé. La science explique. Elle ne refuse pas Dieu. Elle explique. Si je prends par exemple un récipient que j'ai rempli d'hydrogène et que j'envoie un rayonnement, je vais avoir des informations. C'est ce qui se passe dans le cosmos, qui est en grande partie rempli d'hydrogène. Et avec un télescope performant, j'essaye de voir ce qui se passe. Alors en ce moment, on fabule, mais ça a l'air sérieux quand même. On a découvert un gros soleil, et ces spectres émis, ces rayonnements, expliqueraient, moi je suis prudent, le Big Bang. C'est-à-dire le milliardième de seconde avant cette explosion de cette vie-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cosmos, si on prend 1 cm3, c'est-à-dire la moitié de la première phalange d'un doigt, on peut mettre des milliers d'atomes d'hydrogène. Ça vous donne une idée de cette taille, de ce volume d'hydrogène. Mais quand on rentre dans notre atmosphère terrestre, ce n'est pas quelques milliers d'hydrogène. Dans ce centimètre cube, on peut mettre des centaines de milliards, vous comprenez, des centaines de milliards d'atomes d'hydrogène. Ça donne l'idée de la taille de cet hydrogène. Et quand on pense que cet atome d'hydrogène, c'est un noyau autour duquel tourne un électron, ça veut dire quand le noyau et l'électron sont vides, on comprend un peu le volume de la matière. C'est rien. Alors, c'est important, ça. Parce que...
C'est moi qui plane, là.
Non. C'est pas facile, là.
On n'est pas les spécialistes, j'entends bien.
Je veux revenir à l'écologie aussi. Non, parce que... Avec les atomes, on construit des molécules. C'est peut-être un peu difficile ce que je dis. Je voulais être simple.
Non, c'est très intéressant.
Merci. Je continue. Parce qu'avec des atomes, on construit des molécules. Et si je m'intéresse aux molécules de la cellule, on est un ensemble de cellules. Je voudrais expliquer que la science, enfin, ça a été mon cas, la science peut m'amener, et j'étais à une période de grosse doute, peut m'amener à croire en Dieu. Alors, je voudrais expliquer pourquoi. Parce que, quand vous avez 200 000 premières qui se rencontrent, et qui vont donner un embryon, c'est-à-dire quelques cellules, ces cellules vont se transformer pour devenir l'être humain. Le corps humain et l'être humain que nous sommes. Et là, on va discuter, on va se bagarrer, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ça, moi je trouve ça merveilleux, quand vous avez les cellules embryonnaires, où tout est prêt à se transformer, à se différencier. Vous avez des micro-territoires qui vont se transformer pour le nez, l'ongle, les cheveux, le cœur, le cerveau, et ainsi de suite. Comme ça. Et je crois que tu dis, parce que j'ai l'impression que j'entends des choses.
Oui, ce que tu nous dis, c'est que l'étude scientifique qui rend grâce de la complexité et de la merveille de la création nous pousse à adorer le Créateur.
Absolument, non. Voilà. Je voudrais apporter des preuves quand même, parce que son micro-territoire, et Daniel a été. C'est le micro-territoire qui est déterminé à donner quelque chose, si en relation avec les micro-territoires voisins, si vous modifiez la nature des territoires voisins, ce micro-territoire va donner autre chose. Et j'en ferai merveilleux pour que ce micro-territoire est prêt à donner n'importe quoi en fonction de ses voisins. Et ça, ça interpelle. Ouais.
Merci. Merci, Lucie.
Moi, je voudrais dire quelque chose de tout simple. Je voudrais revenir à cette idée de séparation que je trouve extrêmement importante. Parce que j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, Charlotte. Dans la Genèse, c'est Dieu qui sépare. Et je crois que cette séparation-là, ça veut dire, d'après ce que je comprends et d'après les mots hébreux, c'est chacun a son identité. C'est pas, on n'est pas dans la confusion. Ça me rappelle aussi ce que disait Jean-Marc hier, le syncrétisme, ça peut faire plaisir à tout le monde, mais tout perd sa saveur. Ça perd sa saveur. Je me dis, ce qui est important, c'est que dans le monde, les choses restent elles-mêmes, que nous restions nous-mêmes. Pour moi, c'est un problème d'identité. Alors que séparation dans le sens des frères séparés, des exclusions, ça, c'est complètement négatif et on se bat contre. Mais dans la mesure où on est vraiment soi-même, où on a son identité, on peut être dans la communion, on peut se parler, il faut une distance, comme dans un couple, il ne faut pas être trop près l'un de l'autre, il ne faut pas de la fusion, il ne faut pas du mélange, il ne faut pas de l'indifférencié, de la confusion, mais d'être à distance séparé. Moi, il me semble que c'est quelque chose qui est très important pour la tradition juive, mais je comprends entièrement. Ça nous permet au contraire d'être frères et de communiquer et de communier.
Oui, non, c'est aussi un éclairage si on va un peu plus loin dans la séparation de la création, qui là était vraiment basique, j'ai envie de dire, hein, lumière, ténèbres, ciel, terre, mer, jour et nuit, hein, voilà, on en était là, mais en même temps ça peut nous dire quelque chose effectivement dans notre propre relation et dans notre identité.
François.
Juste pour enchaîner sur ce qui vient d'être dit avant, personnellement j'emploie le mot différenciation plutôt que séparation, comme ça évite la connotation soit positive soit négative du mot séparation.
Donc François disait qu'il parlait plutôt de différenciation quand il s'agissait d'identité plutôt que séparation. Voilà.
Dernière question. On va s'arrêter là. J'ai vu que vous aviez bien aimé le côté scientifique. Donc, je vous dirais que quand Charlotte nous dit que l'homme n'a pas accès à l'origine première, les scientifiques sont arrivés à la même conclusion. On sait qu'on remonte de plus en plus vers le Big Bang, qu'on arrive à l'expliquer, mais qu'on n'arrivera jamais. C'est la seule chose sur laquelle ils sont d'accord. On ne saura jamais ce qui se passait avant. Pourquoi il y a eu un moment de Big Bang.
Moi, je voulais remercier Charlotte parce que j'ai appris un mot nouveau. C'est qu'à partir de demain, j'utiliserai ce mot-là d'ailleurs. C'est d'abogiatiser. D'abogiatiser.
Le mot n'existe pas. Hein. Débouillitiser, voilà, transformer l'embouille, la bouillie en bonne chose.
C'est un néologisme. Voilà.
Le temps
est passé. Nous allons remercier Charlotte et sa fidèle lectrice. Et pendant que nous en sommes aux remerciements, nous allons remercier les gens qui font que nous ne mangeons pas de la bouillie à midi. Et donc je voudrais que les cuisinières, en tout cas celles qui sont présentes, parce qu'elles sont nombreuses, c'est toute une organisation, se lèvent. Et puis je sais qu'il y a des acceptants dans jamais de venir ici. Parce que ça n'est pas que de la cuisine, c'est aussi de la cuisine, mais c'est aussi beaucoup d'organisation. Et c'est un petit miracle que ça fonctionne. C'est une des seules choses qui ne donne aucun souci pour la semaine thématique. Donc, voilà, j'ai bien dit, hein, c'est la partie visible. Bon, on laisse. Et puis la semaine thématique continue.
Encore un petit peu d'attention, s'il vous plaît.
Deux petites secondes. Il y aura du dessert pour tout le monde, vous inquiétez pas. Voilà, on commence à en rassembler quelques-unes. Et oui, Jane aussi. Voilà. Et donc la semaine est bien avancée, mais elle continue. Demain, il y a les comptes bibliques à 17h30 ici au temple, en bas. Ce sont les conteuses bibliques du diocèse qui nous font l'honneur et l'amitié de venir. Dimanche, il y aura un culte de clôture présidé par le pasteur Bernard Ordoff avec l'assistance du pasteur Charlotte Gérard. Sur ce sujet. Et puis, vous avez en bas l'exposition photo et la sculpture que nous a confiée une des conteuses bibliques du diocèse qui est aussi sculpteur. Et puis, il y a le tableau de notre paroissien Jean-Yves Gonzalez. Si des gens ont des explications, eh bien, ils peuvent nous en faire profiter. Voilà, puisque la question est ouverte. J'ai rien oublié ? Eh bien, c'est le temps du dessert et du café. Merci.